comme premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est difficile de passer à côté de la COVID, de la pandémie. Je sais, il y a des gens qui se disent, ouais, mais ça fait des mois qu'on parle de ça. En même temps, je pense qu'on est rendu à une étape où, oui, il faut parler de d'autres choses. La vie continue, mais en même temps, faut réaliser que pendant des mois, voire des années, la COVID, ça va faire partie de nos vies, ça va faire partie de notre quotidien, de notre réalité.
Puis l'automne, c'est comme dans 5 minutes aussi, là.
Absolument. Hein?
Avec des risques accrus, à mon avis.
Deuxième vague qui est appréhendée, le port du masque, comment ça se passe. Retour des jeunes en classe, ça, c'est à 13h que le ministre de l'Éducation, ouais. Jean-François Robert, je vais faire le point. Mais qui de mieux pour discuter de la situation globale que le docteur Horacio Arruda, directeur national donc de la santé publique, qui est au front depuis plusieurs mois. Il est au bout du fil. Docteur Arruda, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi comme.
Félicitations pour votre nouvelle émission.
Ben, merci. On est bien contents de vous avoir comme tout premier invité. J'ai envie, pour débuter avec vous, de faire une espèce de bilan de la saison estivale. Bon, je comprends qu'il y a bien des gens même qui débutent leurs vacances. On est à la mi-août. Mais je suis curieux de vous entendre sur les appréhensions que vous aviez lorsqu'on a déconfiné au printemps. J'imagine, d'un, que vous deviez avoir des craintes très importante par rapport à comment la situation aurait pu dégénérer et quel constat vous faites le rendu à la mi-août quand vous voyez l'évolution du nombre de cas, l'évolution du nombre de décès, par exemple?
Bon, c'est sûr que tout déconfinement était un risque, hein? Tout dépendamment comment les gens allaient se comporter. Vous savez, au Québec, on a eu un drame important dans les CHSLD, on n'oubliera jamais ça, mais dans la communauté, on avait réussi à contrôler la transmission. On s'est pas retrouvé dans des situations comme en Italie ou en France où il fallait choisir entre deux personnes pour aller aux soins intensifs. Ça, ça a été grâce aux mesures qu'on a mises en place de confinement total, mais aussi que les Québécois ont respecté les consignes. Quand on déconfine, je l'avais dit, c'est comme une libération conditionnelle. On est libre, on a le goût de revenir. C'est pas naturel d'être enfermé. C'est pas naturel de pas se voir l'été puis pas avoir du plaisir. Moi, ma crainte, c'était qu'on réaugmente de façon importante la situation. On a réussi à abaisser quand même les taux de façon importante. On est resté quand même, il y a quand même eu des éclosions, hein, on s'en attendait. Il y a quand même eu des endroits où il y a eu des cas. Mais les équipes de santé publique, les gens qui ont travaillé avec nous au niveau de la santé au travail, on a réussi à contenir la situation de telle sorte que on a fluctué autour de 150 cas tout le long, mais sans qu'on ait à réaugmenter, puis on descend actuellement aussi les cas progressivement. D'où l'importance, ça démontre quoi? Le virus est toujours présent. Le virus, heureusement, il est contrôlé. On l'a vu de par les comportements des individus qui avaient des certaines situations, des parties à la maison, où on pense que les gens ne seront pas symptomatiques quand ils laissent la maladie à d'autres. Mais on a réussi à empêcher ce qu'on appelle des flambées parce qu'on est intervenu, on l'a démontré cet été, de façon agressive auprès des gens. Il y a eu des programmes de dépistage pour les jeunes, etc. Et si la population continue, à mon avis, à respecter les consignes de déconfinement, on devrait être en mesure, sans éliminer complètement tous les cas, ni toutes les éclosions, d'être en mesure de contrôler la situation.
Docteur Arruda, vous dites, on va être en mesure de contrôler la situation, mais à quoi on doit s'attendre cet automne? Parce que là, il y a la rentrée scolaire qui s'en vient dans quelques semaines. Bon, naturellement, les gens restent un peu plus à l'intérieur pendant la période automnale, pendant l'hiver également, qui est à nos portes. À quoi on doit s'attendre? Est-ce qu'il y aura réellement une deuxième vague ou est-ce que ce sera la suite d'une première vague?
Mais écoutez, je pense qu'actuellement, la première vague, elle est un petit peu derrière nous, quoi qu'il y ait encore des cas. On n'est pas rendu à zéro. Mais c'est sûr que l'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a deux choses. Soit qu'on réaugmente complètement par nos comportements la situation qui est actuelle avant même l'arrivée d'une deuxième vague, parce que la deuxième vague, c'est associé habituellement à ce qu'on appelle la saisonnalité des virus. Je vous savais, chaque année, la grippe revient, les autres virus reviennent. Fait qu'on se demande si le COVID-19 va pas faire la même chose. Ce qui est important, c'est d'être au plus bas possible, je sais pas si vous comprenez, maintenant.
Pour rentrer dans l'automne.
Pour rentrer dans l'automne, pour pas déjà rentrer dans l'automne étiré, si vous me permettez, là, puis qu'avec l'arrivée de la deuxième vague, ben là, ça explose. Que je pense que c'est important de continuer, puis je peux vous dire que tous les autres virus, les gastro, le rhume, puis tout ça, si on applique les mesures d'hygiène, de distanciation, de lavage de mains, puis de port du masque, on va aussi probablement avoir un impact sur ces infections-là.
Mais c'est quoi, Dr. Arruda, une deuxième vague? Ben, on parle souvent de la deuxième vague. Premièrement, est-ce qu'elle est inévitable? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on parle de la deuxième vague, est-ce que c'est sûr qu'ils vont en avoir une? Puis, à partir de quel rythme, quelle évolution, quelle statistique vous seriez en mesure d'affirmer que là, ça, là, on est dans une deuxième vague?
Mais je vais vous dire, c'est quand on va avoir une augmentation de cas, que jour après jour, ça va aller en augmentant. Tu sais, c'est normal d'avoir des variations 100, 150, on vient 100 à 100, on vient 125. Mais si on commence à avoir, je vous dirais, des 100, 200, 150, 200, 235, 270, je sais pas si vous comprenez, on a vraiment, là, une augmentation qui est rapide. Puis là, il faut qu'elle soit aplatie encore. Je vais revenir avec l'aplatissement de la courbe. Plus on l'aplatit, mieux, moins elle a d'impact parce que ça veut dire qu'il y a moins de monde malade en même temps qui vont pouvoir aller dans le système de soins. Fait que la deuxième vague va arriver le jour où on va se mettre à avoir une augmentation continue jour après jour, puis qui va augmenter, espérons-le, de façon moins exponentielle, mais plus aplatie encore.
Docteur Arruda, évidemment, on doit parler du masque. On reviendra pas nécessairement sur ce que vous disiez au printemps. Je pense que je comprends que vous aviez des craintes, du faux sentiment de sécurité. Puis, je pense qu'on réalise qu'effectivement, il y a peut-être dans certains cas un petit relâchement sur le lavage de mains parce que les gens portent le masque à l'intérieur, dans les endroits publics. Mais scientifiquement parlant, est-ce qu'il y a une science derrière ça? Qu'est-ce qui nous prouve scientifiquement que le port du masque obligatoire dans les lieux publics va freiner la propagation de cette maladie-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prouve ça scientifiquement?
Mais moi, il faut comprendre que c'est un ensemble de mesures qui vont vraiment freiner. Là. Si vous dites c'est seulement le couvre-visage, je pense que ça n'aura pas l'effet escompté. Il y a de plus en plus de données dans la littérature, mais ça, c'est récent, hein, qui essaie de dire, puis il y a encore des débats là-dessus, là, parce que l'autre affaire, ce qui est très difficile, c'est d'isoler l'effet d'une seule mesure. Hein. Quand je l'ai dit dès le premier point de presse, les gens s'en souviennent pas, que ce que je dirais aujourd'hui allait être différent le lendemain en fonction des connaissances, etc., puis où étaient les gens. La chose qui est la plus importante, c'est si vous êtes confiné complètement, ou si vous êtes toujours à distance des cas, vous ne serez pas contaminé. Ça, c'est la chose la plus importante. Après ça, c'est l'hygiène des mains. Puis après ça, c'est le couvre-visage. Mais si tout le monde porte le couvre-visage, il peut y avoir une certaine réduction de la transmission de par le fait que les gouttelets sont retenus pour protéger les autres. Fait que dans les faits, maintenant, au stade où on est déconfiné, parce qu'il faut comprendre qu'avant, là, on était en confinement. Puis on était, c'est pas nécessaire d'avoir le masque, on en manquait pour la population. Puis il fallait apprendre aux gens à marcher, à ramper, marcher, puis courir après. Là, c'est le temps de courir avec le masque, si vous me comprenez. Fait que il y a pas de données précises, mais il y a certaines études qui démontrent que dans certains pays où le port du masque est utilisé de façon importante pour la population, ça a peut-être été un des facteurs qui, avec les autres, ont diminué la transmission. Fait que comme c'est pas invasif envers les personnes, comme il faut par contre bien le porter, se laver les mains souvent, le laver régulièrement, c'est toutes ces affaires-là qu'il faut apprendre aux gens. Puis là, je pense qu'on est rendu là. On est rendu là parce qu'on est aussi déconfiné.
Mais en même temps, Dr. Arruda, je vais me faire un peu l'avocat disant, je vois les messages qui rentrent. Il y a bien des gens qui sont enragés noirs avec l'histoire du port du masque. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit le faire pour la société. Il ne faut pas être égoïste, il faut pas être nombriliste. On doit le faire, mais en même temps, je reconnais que c'est désagréable. Et lorsqu'il y a des gens qui parlent, qui dénoncent une espèce d'atteinte aux libertés, je sais que beaucoup vont avoir en tête le fait que lorsqu'un gouvernement, on va prendre l'exemple de taxes ou d'impôts, amène une nouvelle taxe, un nouvel impôt dit temporaire, souvent ça reste permanent. Donc là, il y en a qui se disent, à quand on pourra voir un relâchement au niveau de l'imposition du masque? Est-ce que vous, dans votre tableau de bord, là, vous êtes capable de dire, rendu là ou quand il y aura tel indicateur, on pourra, dans certains endroits, rendre le masque non obligatoire. Est-ce qu'on a ces réponses-là?
Oui, ça pourrait être le cas si la menace à la santé, si on a un vaccin, si on a... puis là, ça pourrait devenir une mesure de norme sociale que les gens pourraient porter sans que ce soit obligatoire. Mais là, on n'a pas de traitement pour cette maladie-là. Elle a des très grosses conséquences. Vous savez, il y a des pays qui portent le masque depuis longtemps. En Asie, là, pour la grippe et pour d'autres virus, ils le portent. C'est pas dans notre culture. Vous savez, là, il n'y a personne qui aime ça me brimer les droits des personnes. Moi, j'aime pas brimer les droits des personnes. J'ai pas aimé ça qu'on ferme toute l'économie, qu'on ferme les restaurants et les faillites que ça a entraîné. Mais à un moment donné, il faut faire des choix pour l'ensemble de la population. Et on pense, honnêtement, on n'est pas ici dans une perspective où on rend obligatoire le vaccin puis qu'on a envahi les personnes. On leur demande de porter un couvre-visage quand ils vont être dans des situations où ils ne pourront pas respecter le 2 mètres. Il me semble que comme mesure, compte tenu de la gravité de la maladie puis l'impact que ça peut avoir sur les autres, c'est une mesure citoyenne qui est relativement acceptable. Mais que des gens veulent s'exprimer, d'être contre, etc., moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on brime cette liberté-là comme telle. Il faut éviter la violence, ça, je tiens à le dire. Ouais. C'est pas avec la violence qu'on va s'améliorer les uns les autres là-dedans. Mais je pense que ici, comme ailleurs, au Canada, comme dans d'autres pays, ben, nous, on pense que le masque, ça peut être un instrument qui pourrait peut-être sauver 10, 15, 20, 30 % des gens. Ah oui? Mais déjà, ces 30 %-là, c'est beaucoup. Mm-hmm. On ne sait pas là exactement la mesure. Puis comme je vous le dis, c'est pas vrai qu'on est capable de maintenir la distanciation de 2 mètres tout le temps. Même moi, personnellement, ça m'arrive de rentrer dans la zone du 2 mètres sans le vouloir. C'est pour ça que je porte le masque.
Ouais.
Parce que c'est pas vrai que c'est facile de maintenir le 2 mètres tout le temps. C'est presque impossible.
Docteur Arruda, le ministre de l'Éducation va faire, va donner les précisions concernant la rentrée scolaire cet après-midi à 13h, puis je veux pas te devancer nécessairement ce point de presse-là, mais là, il y a beaucoup de choses qui circulent concernant le port du masque à l'école. Il y a des informations qui circulaient déjà ce matin comme quoi potentiellement les élèves de 5e, 6e année allaient devoir porter le masque à l'école en entrant à l'école cet automne, au secondaire également. Pour les enfants, est-ce que c'est vraiment nécessaire, à votre avis, d'imposer le port du masque dans les écoles?
Vous verrez les annonces qui seront faites. Mm-hmm. Vous avez vu l'avis de Santé publique de Santé Canada ou de l'Agence de santé publique canadienne. C'est parce qu'on considère peut-être que certains enfants... les enfants, heureusement, là, ça c'est une très bonne nouvelle, puis c'est vraiment important que les gens comprennent, les enfants sont moins touchés par la COVID-19 ou s'ils font la maladie, ils n'auront pas de conséquences majeures. Ça, c'est une très bonne nouvelle, ce qui n'est pas le cas avec d'autres types de virus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, dans le fond, empêcher l'enfant d'aller à l'école, il y a plus d'effets pervers des autres situations, c'est-à-dire socialisation, développement d'enfants, etc., que la COVID-19. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là, la question à savoir, c'était, est-ce que les enfants, ce sont des gens qui transmettent beaucoup la maladie aux adultes ou aux autres? On sait que dans la grippe, on sait que dans certains virus, les enfants, là, en garderie, etc., ça devient des générateurs de virus qui se contaminent toute la maisonnée, là, par exemple dans les gastro, ouais, etc. Dans le cas du COVID-19, c'est pas le cas jusqu'à un certain âge. Fait que là, il y a des discussions à savoir si tu as 10, si tu as 12, si tu as 11, si tu as 9. Et là, dans le fond, la santé publique canadienne, là, les experts au Canada, auxquels nous, on discute aussi, on a convenu que ce soit autour de 10 ans là, en termes canadiens. Là, maintenant, si on regarde la position du Québec finale, ben, vous aurez l'information dans le courant de l'après-midi.
Mais est-ce que vous considérez que... Moi, je ne trippe pas sur le port du masque chez les enfants. Mais peut-être je comprends qu'à quelque part, il faut tracer une ligne puis prendre un maximum de précautions. Et je pense que si le gouvernement annonce, par exemple, que les enfants en classe seront pas contraints à porter le masque, il y a moyen de dealer avec ça. Par contre, là où j'ai un petit peu de difficulté, Dr Arruda, c'est que si, par exemple, on prend premier, deuxième cycle et qu'on trace une ligne, par exemple, à l'âge de 10 ans, ça voudrait dire que dans une même école primaire, il y a des élèves de 5e année, 6e année, qui devraient se promener dans les corridors avec un masque en côtoyant les élèves de première, deuxième, troisième, quatrième année, qui, eux, ne les porteront pas. Non seulement, Jérôme, je trouve que ça serait difficile à gérer, mais au niveau du bien-être de l'enfant...
Psychologique.
Tu sais, parce que tu rentres à quelque part maintenant avec un masque, tu te sens pas fou parce que tout le monde en a un maintenant. Ouais. Mais le jeune de 5e année qui va côtoyer des jeunes de 4e, de 3e année qui n'auront pas de masque, si c'est le cas, est-ce que vous n'avez pas des craintes sur ce que ça va causer comme effet?
Moi, je vais vous le dire très honnêtement. Là, il y a des raisons pour lesquelles ça serait un âge X versus un autre, à cause du potentiel de transmission envers les autres, alors que les enfants ne transmettent pas beaucoup. Mais vous seriez étonné jusqu'à quel point les enfants s'adaptent, parce que ça, on l'a vécu, notamment dans l'ouverture d'école à l'extérieur de la région de Montréal, là, jusqu'à quel point les enfants s'adaptent rapidement à ces éléments-là. Et quand on leur explique bien, puis tout ça, là, il n'y aura pas de problème. C'est étonnant, je vais vous dire très honnêtement, les enfants là, sont merveilleux dans l'apprentissage de l'hygiène des mains, etc. Des fois, ils nous rappellent à nous, les parents, ce qui doit être fait. Donc, je pense que quand ça leur est présenté adéquatement, puis qu'on explique bien aux enfants, ils vont le comprendre.
Quelques questions.
Ils vont en avoir vu des gens qui vont côtoyer dans les autobus ou ailleurs, ou leurs parents qui vont porter des masques dans certaines situations.
Quelques questions à rafale, Dr Arruda, avant de vous laisser aller, parce que les auditeurs sont très nombreux à nous écrire sur notre messagerie. Concernant la Suède, on a beaucoup parlé de la Suède depuis le début. Il n'y a pas eu de confinement comme ici au Québec. Il y a des chiffres qui sont sortis. Ce sont des chiffres de l'Université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis, concernant les décès sur le taux de mortalité par million d'habitants qui est supérieur ici au Québec par rapport à la Suède, alors qu'il n'y a pas eu de confinement en Suède. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, à ces chiffres-là, maintenant qu'on a peut-être un peu plus de données là-dessus sur ce qui s'est passé en Suède?
C'est toujours intéressant de faire des comparaisons avec les autres pays, mais il faut faire attention au contexte culturel ou autre qui n'est pas toujours pareil. Mmh. On ne peut pas toujours extrapoler ce qui se passe dans un pays par rapport à un autre. Si on regarde qu'est-ce qui s'est passé chez nous au Québec par rapport à la mortalité et tout ça, c'est clair que l'enjeu qu'on a eu, c'est avec nos CHSLD. Là. Oui. Et là, j'ai pas fait de comparaison sur le nombre de personnes qui sont en CHSLD en Suède par rapport à nous. Ces analyses-là pourront être faites. Là. Mais quand vous regardez ce qu'on a fait dans la communauté par rapport aux cas qu'on a eu à l'extérieur des gens qui vivent dans des maisons pour personnes âgées ou etc., nos taux de mortalité ont été... notre succès a été très, très fort. Là. Dans les faits, actuellement, même les éclosions cet été sont beaucoup associés à des jeunes, etc., pas des personnes âgées qui sont mortes de façon significative, comme on a vu au printemps. Fait que dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que notre problème, ça a été véritablement les CHSLD, ouais, qui nous met en tête de peloton par rapport à la question des décès. Là, il faut se poser des questions par rapport à ça. Mais en termes communautaires, les actions qu'on a mises en place ont été très performantes.
Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment? Si on recule à la fameuse journée au printemps dernier où on a annoncé qu'on mettait le Québec sur pause, est-ce qu'il y a des choses, Dr Arruda, que vous ne referiez pas la même chose, vous ajouteriez telle ou telle mesure, feriez pas telle affaire? Est-ce qu'il y aurait eu des choses différentes dans le confinement? Facile à dire après, mais je veux quand même vous entendre.
Mais je vais vous dire, ça dépend si vous me dites, est-ce que vous feriez des choses différentes avec les connaissances que vous avez maintenant, puis par rapport au virus, OK? Ouais. Je vais vous dire, moi, la chose la plus pernicieuse de ce virus-là, je vais vous dire c'est quoi, c'est qu'il contamine le monde avant même qu'on ait des symptômes. Ça, c'est la chose la plus pernicieuse. Ouais. C'est avec ça que plein de travailleurs de la santé qui étaient asymptomatiques ou etc. sont allés dans différents milieux puis ça contamine. Fait que ça, c'est clair, à mon avis, que si je vous disais, là, j'avais eu cette notion, on avait tous eu cette notion-là, on aurait probablement et qui est plus agressif. Mais on avait un problème aussi, monsieur, c'est qu'il fallait quand même offrir des soins aux patients. Je ne sais pas si vous comprenez, avec le problème de main-d'œuvre qu'on avait, je veux dire, on ne peut pas laisser, je ne sais pas si vous comprenez, des gens dans leur chambre, seuls, sans personnel. Mais moi, je pense que c'est là que je vous dirais peut-être, si j'avais su, puis c'est pas mon secteur, c'est pas moi qui s'occupe de ça, je m'occupe de la communauté, mais quand même, je ne veux pas me dissocier de tout ce qui s'est fait, je pense que c'est là probablement que... Mais on était parti, si vous me permettez, beaucoup plus loin en termes de manque de ressources humaines, de telle sorte que ça nous a... et de culture de prévention et contrôle des infections dans ces milieux-là. Et c'est là que ça nous a, je vous dirais, rattrapé de façon très importante.
L'hydroxychloroquine, Dr Arruda, beaucoup de gens nous écrivent là-dessus au 25226 sur notre messagerie. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus aujourd'hui, le 10 août? Est-ce qu'on peut fonder un certain espoir là-dessus? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et écrites là-dessus. Quelle est votre perception de ça aujourd'hui?
Moi, je pense que, honnêtement, ça va être sur la base de d'autres types d'antiviraux que ceux-là. Là. Ça fait trop longtemps qu'on le regarde et qu'on ne trouve pas nécessairement de traitement pour ça de façon efficiente. Je pense que ça va être beaucoup plus dans le développement soit d'un vaccin, je vous dirais, ou d'un autre antiviral qu'on va devoir fonder nos espoirs.
Avant de vous laisser, parce qu'on pourrait vous parler pendant des heures, Dr Arruda, mais je me permets une question un peu plus personnelle, peut-être un peu plus délicate. Je suis curieux de savoir comment on réussit à naviguer avec une notoriété aussi importante que celle que vous avez bâtie aussi rapidement. En ce sens qu'en tant que directeur national de santé publique, vous devez avoir comme seul objectif, évidemment, bon, la santé publique, le bien-être des gens, mais à un moment donné, est-ce qu'on réussit à créer une espèce de paroi étanche pour éviter que l'ego embarque, là, de savoir que, ouais, mais là, si finalement je prends telle décision qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, je pense que l'exemple du port du masque est un bon exemple. Est-ce que ça a été un défi pour vous de ne pas laisser cet aspect-là embarquer dans votre analyse, dans votre jugement au quotidien?
Mais j'ai toujours dit que je changerais, que je dirais des choses différentes d'une journée à l'autre en fonction de l'évolution de la maladie puis des connaissances. Ça pour moi, c'est clair. Chaque jour, j'ai pris des décisions, honnêtement, puis je suis pas tout seul, hein. Je veux dire, j'ai des conseillers, puis etc. J'ai pris des décisions, à mon avis, toujours dans la perspective, je vous dirais, du bien pour les Québécois, comme si je le ferais pour ma propre famille, puis etc. Pour ce qui est de la question de la notoriété, je l'ai pas, je vais vous dire bien honnêtement, je suis encore estomaqué de ce que ça peut vouloir dire. Pour moi, vous savez, la popularité, ça peut descendre aussi rapidement que ça m'a jamais gonflé la tête, si vous me permettez. C'est agréable d'entendre que les gens ont, mais moi, ce qui m'importe le plus, si vous me permettez, c'est que les gens aient confiance. C'est ça qui pour moi est important. C'est pas ni les vêtements que je porte, ni l'épinglette ou quoi que ce soit, mais c'est que les gens aient confiance, que les gens sachent que je fais mon travail de façon la plus honnête, sur la base des données les plus probantes, puis d'un jugement populationnel. Et quand vous traitez une population, il y a des gens là-dedans qui ne seront pas d'accord. Mais là, il faut savoir qu'est-ce qu'on choisit le mieux comme équilibre pour le bien de tous.
Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça fait plaisir, puis bonne émission à vous et bonne longue vie à votre émission.
Merci beaucoup. C'était le docteur Horacio Arruda. Je sais que ça vous fait réagir.
Énormément.
Certains auraient voulu qu'on sacre une volée au directeur national de santé publique après 15 minutes d'existence de notre show.
Il y en a qui aiment ça qu'on raccroche au nez de quelqu'un, mais c'était pas ça le but, sincèrement, aucunement. Puis, tu sais, je lis vos commentaires au 25-226, puis écrivez-nous, là, que vous soyez pour ou contre, que vous soyez en accord avec ce qu'on dit ou pas. On est toujours content de vous lire au 25-226. Mais la réalité, c'est que je comprends qu'on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup que l'hydroxychloroquine, par exemple, que ça fonctionne. Mais je pense que ça fonctionne pas comme certains le disent présentement. Là. C'est ça la réalité aussi, à un moment donné.
Oui. Puis beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questionnements, d'inquiétudes par rapport aux enfants. Là, on va y revenir plus tard dans l'émission parce qu'on va vous diffuser une partie du point de presse du ministre de l'Éducation. Je pense que ça s'impose là à 13h et on aura l'occasion d'analyser, de revenir là-dessus. On vous rappelle, si vous voulez réagir, 25-226 par téléphone, le 670-9330. Je vous rappelle également qu'on est en Facebook Live sur le Facebook du FM 93. Bougez pas, on fait une pause et on revient.